Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Bonsoir à tous, quel bonheur de vous retrouver pour 4 heures de bonheur, 4 heures de folie, on l'espère. En tout cas, le match de la peur, c'est à vivre sur RMC, vous le savez, avec ce barrage retour entre Nice et Saint-Etienne. On sera évidemment dans le sud dans quelques instants et vous saurez tout également à J-1 de cette finale de Ligue des Champions que tout le monde attend entre le PSG et Arsenal. Demain, soirée exceptionnelle sur RMC. Toute la journée, on vous fait vivre ce rendez-vous magique. Coup d'envoi à 18h, on vous rappelle demain, c'est un horaire inhabituel. Ils sont là, en pleine forme, Maxime Chano et Lionel Charbonnier. Bonsoir messieurs.
Salut Karine, salut Max, salut à tous, salut à tous.
Tout va bien ?
Ouais, ça va ?
Ouais, on va. Ça va, malgré la chaleur parisienne, hein. Bon, on va pas se plaindre.
T'es pas habitué, toi, qui viens de Corse ?
Ouais, mais bon, en règle générale, il y a la mer, il y a le
vent. Il y a toujours un petit peu d'air.
C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je compense avec cette finale de Ligue des Champions que j'attends avec impatience.
Demain, on vous rappelle, coup d'envoi donc à 18h, le PSG pour un doublé après celle gagnée l'an dernier face à l'Inter, ou Arsenal pour une première après la finale perdue de 2006. Et puis dans quelques minutes, ça sera le match de la peur, le match de la dernière chance pour deux équipes, une qui rêve de rester en Ligue 1, c'est Nice, et une qui rêve de revenir en Ligue 1, c'est Saint-Etienne. Mais on va d'abord commencer sur l'événement du week-end, donc cette finale de Ligue des Champions 2026. On prend la direction d'une ville magnifique, Budapest, avec Arthur Perrault. Bonsoir Arthur.
Salut messieurs, dames. Bonsoir. Salut à toutes et à tous.
Salut Arthur, tu as de la chance parce que tu es dans une ville magnifique, mais tu n'es pas là pour faire évidemment le touriste et faire des visites. Tu es là pour nous raconter tout ce qui se passe côté parisien et côté Gunners. Les Parisiens qui sont donc arrivés aujourd'hui à Budapest pour jouer la troisième finale de Ligue des Champions de leur histoire. Dis-nous tout, quelles sont les nouvelles côté parisien? Est-ce qu'ils vont bien?
Oui, tout va bien et d'ailleurs on les a vus de très bonne humeur hein, au moment de l'entraînement traditionnel, séance de veille de match tout à l'heure ici à la Puskás Arena, où il y avait beaucoup de sourires. Voilà, il y a eu une petite aide d'honneur pour le retour de blessure du jeune titi parisien Quentin Jantou en tout début de séance, et puis derrière voilà pas mal de chambrage notamment d'Achraf Hakimi après un petit pont sur Nuno Mendes. Ils sont très détendus et ça se ressent aussi hein, dans le staff parisien, où on a vu un Luis Enrique voilà prendre le temps de s'asseoir sur un ballon, d'échanger avec son staff, et c'est vrai que ça illustre parfaitement tout le contexte parisien voulu en premier par l'entraîneur espagnol ces derniers jours. Voilà, il ne veut pas ajouter davantage de pression autour de son effectif, et il a tenu à le rappeler tout à l'heure en conférence de presse. On l'écoute, l'entraîneur du PSG.
Je pense que chaque fois qu'on voyait exciter nos supporters, c'est très positif. Après, avant une finale comme ça, on cherche à rester concentré sur ce que c'est important, sur les choses qu'il faut savoir gérer. Et c'est clair que c'est une motivation pour nous, pas marquer l'histoire que l'on a fait l'année dernière, mais continuer à être l'une des meilleures équipes du monde et de l'Europe dans ce moment. Et c'est notre objectif, c'est clair.
Voilà les Parisiens concentrés, surmotivés avant cette finale de Ligue des Champions. Paris qui a tenu aussi sur place à ne pas bousculer ses habitudes. On le rappelle, l'année dernière, l'Inter Milan avait fait le choix d'arriver bien en avance à Munich pour la finale. Les Parisiens sont arrivés seulement ce midi. On a pris le temps de prendre leur quartier en début d'après-midi, le New York Palace en plein centre de Budapest, avant donc cette séance assez tôt. Et ce soir, ce sera un dîner, voilà, pareil, assez tôt, avant une bonne nuit de sommeil et cette grande journée qui débutera donc demain matin avec là aussi un programme classique voulu par le PSG.
Une conférence de presse de gala, on le rappelle, il y avait évidemment Luis Enrique, on vient de l'entendre, il y avait le ballon d'or Ousmane Dembélé et le capitaine Marquinhos. Luis Enrique qui a également rassuré tout le monde, le groupe sera au grand complet, Arthur.
Et oui, et ça c'est la grande nouvelle hein, côté parisien. On le répète hein, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, les pépins physiques qui se sont enchaînés tout au long de la saison au Paris Saint-Germain. Et comme par miracle, mais ce n'est pas un miracle parce que ça a été minutieusement pensé par le staff parisien, le groupe est au grand complet ici à Budapest. J'en parlais il y a quelques instants, le retour du titi parisien Quentin Jantou qui a été opéré, qui a pris le temps de faire un processus de reprise individuelle avant d'être de nouveau opérationnel. Mais surtout les deux principales informations, c'est que Ousmane Dembélé s'est totalement débarrassé de sa gêne au mollet. Il est à 100%, il l'a redit aujourd'hui au micro du diffuseur Canal+. Il postule donc à une place de titulaire. C'est d'ailleurs bien la tendance, hein, que ce soit lui qui débute cette rencontre demain en faux numéro 10 comme d'habitude. Et en revanche, la question se pose pour Achraf Hakimi qui lui aussi est de retour. Est-ce qu'il va débuter cette rencontre ou non? C'est plutôt la tendance, mais on sait, il faudra se méfier jusqu'au bout. Luis Enrique aime à nous réserver des surprises et il annonce toujours la nouvelle au dernier moment à ses hommes.
Parce qu'il y a un risque, hein, et Lionel et Maxime, j'aimerais avoir votre avis. C'est forcément que peut-être il y aura un grand perdant et c'est peut-être Zaïre Emery qui serait donc sur le banc parce que tout le monde est disponible. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Luis Enrique ?
Moi, je me posais la question et j'ai envie aussi de la poser à Lionel, de savoir quel joueur aurait été le plus problématique de ne pas avoir demain sur le terrain, si ça serait Dembélé et Hakimi. Et finalement, la réponse, moi, je vais vous la donner. Pour moi, c'est Hakimi parce que justement, Zaïre Emery est en mesure de pouvoir combler l'absence d'Hakimi. Je pense aussi évidemment quand on revient au mois de janvier à la CAN, quand Hakimi était revenu de blessure avec l'équipe nationale marocaine, on a vu que ça avait pris quand même un peu de temps pour lui, pour revenir un petit peu dans le rythme. Donc c'est vrai que de voir Hakimi demain titulaire à la place de Zaïre Emery, qui a été très très performant en tant qu'arrière droit, je me pose la question si c'est forcément judicieux de faire débuter le Marocain.
Lionel ?
Pour moi, il n'y aura pas de grand perdant. Parce que cette équipe, elle a été fondée justement sur un collectif. Et s'il y en a un qui pourrait prendre un petit peu moins la lumière aujourd'hui, et, enfin demain en tout cas, et qui pourrait quelque part en vouloir un petit peu à son coach, ça serait plus Hakimi. Mais pour ce qui est de Zaïre Emery, mais je suis persuadé à 300% que tu peux le mettre titulaire demain ou même remplaçant, il est habité par la même ambition. Voilà, et je pense que Hakimi pourrait prendre un petit peu plus la mouche, mais je suis même pas persuadé de ce que je dis, mais entre les deux, il y en a un qui serait un peu plus atteint, pour moi ça serait Hakimi. Mais il en voudrait pas pour autant à son coach, il en serait pas pour autant, il perdrait pas la banane, il perdrait pas tout ça. Ouais.
Mais toi Lionel, en tant qu'ancien entraîneur, en tout cas avec ton expérience, est-ce que tu prendrais le risque de faire jouer Hakimi? Tu sais qu'il revient d'une blessure, bon alors, ça n'a pas été une très très longue blessure de mémoire, 5 ou 6 semaines, mais quand même, est-ce que tu prendrais le risque mettre un joueur titulaire sur un premier match de finale de Ligue des Champions alors que tu sais que tu as un backup avec Zaïre Emery qui fonctionne?
T'as les deux écoles. T'as ceux qui prennent. Moi, je suis plutôt de la première école et je vais prôner pour ma paroisse. Moi, si j'ai un risque à prendre, je fais jouer Hakimi tout de suite.
D'accord.
Tout simplement parce que si jamais il y a une rechute, j'ai tout de suite Zaïre Emery. Par contre, si je fais jouer Zaïre Emery, que je le sors Zaïre Emery, que je mets Hakimi et qu'il rechute tout de suite, je suis obligé de refaire un changement. Et là, mon changement, moi, ça c'est ma première école. Après, t'en as d'autres qui disent, avec les datas maintenant et tout ça, qui vont te dire, écoute, on fait jouer Zaïre Emery et Hakimi, je le ferai rentrer à la 80e ou à la 60e comme il a l'habitude de faire Enrique, parce que je sais qu'il a une demi-heure dans les jambes.
Arthur, on sait que c'est dur, oui, évidemment, de connaître ce que pense Luis Enrique et quels seront les choix de Luis Enrique. Est-ce qu'il y a une tendance quand même pour demain?
Il y a une petite tendance, mais et ce n'est que mon avis, et je pense que vous allez me rejoindre. Je pense qu'il va jouer énormément sur ça et le fait qu'il y ait encore des questions qui se posent, même si Achraf Hakimi est lui aussi à 100%, même si il participe de nouveau aux séances collectives. Mais il y a un mini point d'interrogation. La petite tendance est à ce que ce soit Hakimi plutôt qui débute cette rencontre sur le couloir droit de la défense parisienne. Et après pour le reste, c'est vraiment du grand classique. On va retrouver l'équipe type parisienne avec, comme je vous le disais, devant Ousmane Dembélé qui est de retour, et le trio incroyable au milieu de terrain, Vitinha, Ruiz et Joao Neves. Mais encore une fois, il va en jouer et on ne peut pas lui donner tort. C'est là où il peut avoir aussi une influence encore un peu plus forte sur ce match-là.
Effectivement, on rappelle 20 000 supporters parisiens sont attendus demain. On va s'intéresser à l'adversaire. Un petit mot des Gunners. Arthur, deuxième Ligue des Champions, deuxième finale de Ligue des Champions pour les joueurs anglais. Après, c'est le perdu en 2006, c'était au Stade de France. Ouais. Eux, ils sont arrivés un petit peu plus tard à Budapest.
Oui, exactement. Alors, eux ont fait un autre choix avec une séance tardive qui s'est terminée d'ailleurs il y a quelques instants. Avec là aussi, et c'est drôle, comme si les deux staffs s'étaient passé le mot. Des scènes très détendues. On a vu notamment Gabi Heinze échanger longuement avec Luis Fernandez, qui est présent sur place en tant que consultant. Voilà les deux hommes qui ont pu échanger avant la séance des Gunners. Et l'autre image forte, on avait prévu d'en parler, Karine, en préparant cette émission. Et ben il y a quelques quelques instants, c'est Thierry Henry qui est venu assister à la fin de séance des joueurs d'Arsenal, lui aussi en tant que consultant avec son émission phare. Lui, voilà, pareil, a pris le temps d'échanger longuement avec Saka. On l'a vu aussi échanger une longue accolade avec Mikel Arteta. On sait qu'il a envoyé quelques messages aussi avant la rencontre, notamment à Saka, qui en a d'ailleurs parlé en conférence de presse qui a échangé avec les acteurs de cette rencontre et essayer de donner ces petits messages de motivation avant ce match. Mais voilà, une bonne ambiance aussi du côté du club anglais avant ce match prévu demain soir.
Thierry Henry, évidemment, qui était présent lors de cette finale 2006 perdue face au FCE Barcelone. Quelques informations également concernant le groupe des Gunners. Arteta semblait assez confiant et il nous a annoncé également un retour dans les rangs anglais.
Celui de Julian Timber, qui a participé à la séance d'entraînement. C'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'il y avait quand même une incertitude, lui qui était absent depuis mi-avril et sa blessure à la malléole. Voilà, il a participé à l'intégralité de l'entraînement. Je cite Mikel Arteta, il est fit et prêt à débuter cette rencontre. C'est une bonne nouvelle, puisque donc il n'y a qu'un seul forfait du côté des Gunners, c'est celui de Ben White. Donc vraisemblablement, Timber pourrait débuter cette rencontre. Voilà, du côté du groupe des Gunners. Pour le reste, là aussi, groupe au grand complet.
Merci beaucoup Arthur. Bon, on te souhaite une belle soirée à Budapest et évidemment, pas d'excès parce que demain, il faut être prêt. Très grande journée sur RMC, on le sait. Voilà, je compte sur toi.
Bonne soirée.
Bonne soirée. On retrouvera vers 23h15 Fabrice Hawkins. Vous savez, il faut faire des remplacements aussi. Hein. C'est comme les matchs. Il y a plusieurs joueurs qui s'enchaînent. Et donc Fabrice Hawkins sera avec nous dans l'After Foot ce soir pour nous donner les dernières informations concernant cette finale qu'on attend tous entre le PSG et Arsenal. Alors messieurs, on va redescendre de quelques niveaux là. Là, c'est direction le match de la peur, le match qu'il faut absolument pas perdre, ouais. Le match pour rester en Ligue 1 ou pour retrouver la Ligue 1, ça dépend. Nice face à Saint-Étienne, barrage retour avec deux hommes qui sont au taquet, c'est Maxime Tilliet et Clément Brossard. Bonsoir messieurs.
Salut Karine, salut Lionel,
salut messieurs.
Bon messieurs, on a parlé du gratin évidemment européen avec deux équipes qui jouent pour le titre entre guillemets de meilleure équipe d'Europe et une Ligue des Champions. Là, on va s'intéresser à Nice-Saint-Etienne. On va surtout essayer.
Pareil, je crois que tu allais parler au gratin des présentateurs.
Bien sûr, duo de rêve, Maxime et Clément. Mais c'est vrai que là, on est sur autre chose. C'est le match de la peur, c'est le match horrible qu'on a vécu cette semaine, le match aller avec zéro tir cadré des deux côtés. Et forcément, on sent que la peur habite ces deux équipes, messieurs, et on l'a vu déjà, malheureusement, à Geoffroy Guichard. C'était vraiment pas beau ce qu'il y avait sur le terrain un mardi soir.
Oh, il y a eu un beau spectacle en tribune. Par contre, sur le terrain, c'était pas le cas. On espère l'inverse ce soir parce que stade à huis clos, l'OGC Nice sanctionné et ses supporters également. On en a beaucoup parlé avec également cet arrêté préfectoral qui empêche les supporters niçois ou ceux qui se revendiquent en tant que tels d'approcher le stade du gym, d'approcher le centre d'entraînement du gym également. Donc voilà, contexte un peu particulier pour ce match brûlant, mais qui se disputera dans une atmosphère glaciale, avec des joueurs qui sur la pelouse joue avec la peur au ventre depuis plusieurs semaines, que ce soit côté niçois mais aussi on va l'aborder côté stéphanois. En tout cas, le gym n'a plus réussi à gagner dans sa quête pour le maintien ici à l'Alliance Riviera depuis la fin du mois d'octobre. Voilà, ils n'ont pas réussi à enfoncer le clou en fin de saison pendant la saison régulière dans le championnat, notamment avec cette défaite ramenée d'Auxerre, ce 0-0 ici pour la dernière journée face à Metz, même si c'était anecdotique, ça a quand même amené à l'envahissement du terrain. Donc voilà, la dynamique n'est vraiment pas bonne, et ce qui a pu expliquer aussi la performance lors du match aller avec un Claude Puel qui avait essayé de gérer un petit peu ses hommes, les physiques. Il y a 4 changements dans sa compo ce soir par rapport à celle qui était alignée à Saint-Etienne, et ce soir on retrouve des hommes comme Wai, comme Dante, qui sont des habituels titulaires inamovibles. Alors Wai était suspendu mardi, mais ce soir c'est un petit peu l'homme sur qui tous les espoirs reposent du côté des Niçois.
Alors dis-nous tout justement concernant les compositions d'équipe de Nice et de Saint-Etienne, et puis après on détaillera parce que tu en as parlé, notamment de Wai, un peu l'homme providentiel, en tout cas c'est l'espoir côté niçois vu qu'il était suspendu pour le match aller.
Alors 4 changements pour Claude Puel. Retour déjà au niveau du système au 3-4-3 avec Yevan Diouf dans les buts, la défense à 3 avec Dante le capitaine pour son ultime match de son immense carrière à 42 ans. Il portera le brassard du gym pour la dernière fois. À ses côtés, Opong et Antoine Mendy pour l'encadrer. Dans les couloirs, Melvin Barr et Jonathan Clauss qui retrouvent des rôles de piston. Au milieu de terrain, sans Hicham Boudaoui en protocole commotion, c'est Djibril Koulibaly du haut de ses 17 ans qui va accompagner Morgan Sanson Sanson. Et puis devant, donc, Eli Wahi avec Mohamed Ali Chow et Tom Louchet, préféré à Sofiane Diop.
Et vous dire, Karine, que dans les rangs niçois, pour avoir parlé à quelques salariés du club il y a quelques instants, je reprends la phrase mot pour mot avec toute la poésie, on se fait dessus. Voilà, donc il n'y a absolument aucune confiance envers cette équipe qui doute terriblement depuis des semaines. Côté stéphanois, eh ben, on ne change pas une équipe qui ne gagne pas. C'est le même 11 que celui aligné à Geoffroy Guichard mardi dernier, avec Gauthier Larsonneur dans la cage, une défense à 4. Denis Sapia qui sera présent sur le côté gauche avec Kevin Pedro dans l'axe, Maxime Bernauer. Kevin Pedro à gauche, pardon.
Bête. Et c'est quoi la compo ce soir déjà?
Alors, deux steaks, cheddar, cornichon, une sauce imbattable.
Oh ouais.
Retrouvez.
Vous nous entendez, Clément et Maxime?
Oui, exactement.
Oui, désolé, il y a eu un petit souci, je ne sais pas.
J'ai l'impression qu'on a voulu sponsoriser un petit peu la composition de Saint-Etienne, pourquoi pas, après tout.
Je ne sais pas, mais on t'écoute en tout cas.
Monde,
on était sur le 11 de départ des Verts, effectivement.
Bon, Gauthier Larsonneur dans la cage, pas de changement par rapport au match de mardi. Le Cardinal et Bernauer pour la charnière centrale, Apia et Kevin Pedro pour ce qui est des ailes défensives, avec au milieu de terrain Abdoulaye Kanté et Luan Gadegbekou, lui qui n'a jamais joué en Ligue 1 mais qui a fait forte impression sur les dernières semaines dans le rang des Verts. Augustin Boakye qui sera présent, le Ghanéen, soit en position axiale offensive ou un petit peu plus en retrait en fonction de la physionomie du match. Et puis devant, on a cette triplette, Irvine Cardona, Lucas Tassin, Zurico Davita Julie, qui sur le papier ressemble à une triplette de Ligue 1, mais qui est en grande difficulté ces derniers temps.
Gros souci effectivement pour marquer des buts notamment. On va continuer, messieurs, à parler de ce match de la peur, mais c'est très important parce qu'il y a du spectacle à Roland-Garros. On va tout de suite retrouver Eric Salio, Djokovic face à Fonseca. Mon cher Eric Salio, on est au 5e set, c'est extrêmement chaud entre les deux.
Salut Karim, oui, c'est un match absolument fabuleux puisque Novak Djokovic, qui a mené 2-7-0, s'est fait rejoindre au score par le jeune talentueux brésilien João Fonseca, qui s'appuie sur un coup droit monumental. Mais peut-être que Djokovic va prendre les devants dans cette troisième manche puisqu'il a une balle de break, on va la décrire, elle est très importante. Il y a deux jeux à un, Djoko qui monte, il y a une volée facile à faire, voilà, break Novak Djokovic. L'expérience est en train peut-être de faire la différence. Trois jeux à un dans l'ultime manche après Karim 4h15 de combat.
Magique, franchement, Djokovic qui est assez incroyable. Alors qu'il a souffert évidemment dans ce match, c'est pas terminé, mais en tout cas, il a le break 3-1 dans le 5e set. On suit ça avec toi, Eric. On voit en tout cas que les deux souffrent énormément de la chaleur. On retourne à Nice. À Nice, il fait moins chaud aujourd'hui. Hein. Ça, sachez-le, il fait pas très très chaud ce soir. Ouais, donc c'est important.
Après, il y a l'air de la mer aussi, ça aide, non?
C'est important pour la finale.
Ouais.
Et pour l'eau est un peu fraîche.
Ah, quelle vie. Vous étiez à la plage aujourd'hui,
Clément?
Ah bah évidemment.
Et rendre visite.
Et voilà.
Et rendre visite.
Quelle éthique de travail, bravo Clément.
Parce que Maxime, il a plus l'habitude.
Mais en préparant le match, hein, bien sûr.
Voilà. Mais bien sûr, bien toujours, messieurs.
Ça, on n'en doute pas.
Maxime, tu voulais. Maxime l'Américain, pardon, parce que c'est vrai qu'on a deux Maximes. Tu voulais rebondir sur la composition et sur les choix des deux entraîneurs.
Oui, j'espère surtout qu'on aura un meilleur match que le match aller, parce que vous l'avez dit très justement, messieurs. Je pense que ça a été le pire match que j'ai commenté, Karine, de cette année. Honnêtement, on a eu un rythme. J'ai pas de termes, honnêtement, j'ai pas de mots, tellement le rythme était nul. Voilà, tout simplement. Excusez-moi des mots, mais c'est vrai qu'on a eu deux équipes qui, on a le sentiment qu'il y avait énormément de crainte, énormément de peur. Alors j'ai mis ça sur le compte que c'était le match aller et que personne voulait finalement prendre de risques pour arriver dans une situation défavorable sur le match retour. J'espère sincèrement du fait que ce soit donc le dernier match pour ces deux équipes qu'on va avoir un peu de rythme et un peu d'envie. Et pour revenir à la composition d'équipe, je pense que le retour d'Eli Wahi pour l'OGC Nice va leur faire énormément de bien. C'est vrai qu'il est adepte de la profondeur et même si, alors c'est assez paradoxal parce que le Cardinal et les deux défenseurs centraux, Maxime Bernauer, ont fait un superbe match la semaine dernière, mais c'est vrai que Mohamed Ali Chow a été un petit peu timoré. Là, je pense qu'avec le retour d'Eli Wahi, ça risque d'être une arme supplémentaire pour l'OGC Nice. On sait que c'est un peu l'homme providentiel depuis son arrivée, même si c'est vrai qu'il a eu cette blessure qui a un petit peu corroboré avec le coup de moins bien de l'OGC Nice pendant 6 ou 7 matchs. Maintenant, moi, je me pose la question, j'ai envie de vous poser la question, messieurs, avec le retour de Dante. On l'a vu en forte difficulté quand même, hein, depuis un certain temps, à chaque fois qu'il a joué cette saison. J'ai un peu peur qu'avoir Dante ce soir en tant que titulaire, même si on connaît son expérience, sa carrière, ça ne risque pas d'être forcément un avantage pour l'OGC Nice, d'autant plus qu'il y a quand même de la qualité en face. Vous avez dit Stassin, vous avez dit le géorgien Dadivashvili, vous avez dit aussi Cardona. Enfin, il y a quand même beaucoup de qualité côté stéphanois. J'attends de voir ce que ça va donner. J'ai été joueur, je sais que l'expérience peut être très très importante dans ce genre de match. Maintenant, il va falloir que Dante se mette au niveau et ça, à son âge, ça c'est pas toujours facile.
je te trouve dur. Je te trouve dur avec lui. Alors, ok, sur le troisième but en finale, il est sur la photo Dante. Après, ces derniers matchs, il est revenu, notamment face à Metz. Il fait un très bon match, je trouve. Pas forcément aidé non plus par une équipe malade autour de lui. Mais c'est vrai que du haut de ses 42 ans, voilà, le vécu, l'expérience, il a gagné la Ligue des Champions en 2013 avec le Bayern.
Alors, ça fait pas tout, ça.
C'était, voilà, c'est clair, c'est très loin. Mais c'est un joueur qui, quand même, peut apporter, véhiculer de la sérénité autour de lui. D'un autre côté, il y a Djoumaba aussi qui avait fait 6 très bons mois à Lens la saison dernière, qui a alterné le bon et le moins bon, qui était quand même sur une dynamique pas si négative que ça. Mais c'est quand même Dante qui lui est préféré ce soir. Pour méconnaissant Claude Puel, il n'est pas là pour faire un cadeau à Dante et lui offrir une dernière hommage. En plus, dans un stade vide, je pense que, enfin, on le sait tous, Dante aurait préféré une dernière rencontre pour sa carrière de joueur dans un autre contexte. Mais voilà, s'il est titulaire ce soir, c'est qu'il n'y a pas de cadeau, c'est qu'il est vraiment prêt à 100% physiquement pour tout donner et pour aider ses coéquipiers. Et côté niçois, on s'attend quand même à davantage de maîtrise avec le ballon ce soir que lors du match aller mardi à Saint-Etienne. Et c'est vrai qu'avec le ballon, un Dante et son pied gauche peut avoir des ouvertures, voir des lignes de passe, et ça peut être aussi un atout côté niçois.
Et Dante nous a touché, c'était vendredi dernier, on vous le rappelle, au soir de cette finale de Coupe de France perdue, il a dit: je ne veux absolument pas, évidemment, laisser mon club en Ligue 2, et c'est ça l'enjeu de ce soir. On a parlé de Dante, on va reparler évidemment de Wally avec toi, Maxime, parce qu'on a l'impression que les supporters niçois ne croient plus en rien. La saison a été cataclysmique, la campagne de Ligue Europa a été terrible, le propriétaire est absent, Radcliffe n'était même pas présent à la finale de la Coupe de France, mais l'espoir, c'est voilà, Wally qui est arrivé au mercato hivernal et qui a fait du bien à cette équipe.
Oui, la seule recrue de cet hiver arrivée en prêt, qui a marqué 7 buts, qui a eu quelques absences parce que physiquement il a eu quelques pépins, notamment à la cheville. Il a tout fait pour revenir au plus vite et aider l'OGC Nice. Alors il a été très bien accueilli, il l'a d'ailleurs dit à sa conférence de presse d'arrivée. Lui, son objectif aussi, c'était que ce soit gagnant-gagnant et que de son côté il atteigne et réussisse à avoir sa place pour la Coupe du Monde. C'est chose faite puisqu'il est dans la liste de la Côte d'Ivoire, et il a pu être appelé pour la première fois cet hiver, et il va participer au Mondial cet été si tout va bien ce soir, on lui souhaite. Mais voilà, c'est pour l'instant gagnant de son côté sur ce point-là, et il veut que ce soit aussi gagnant pour le club parce que l'objectif du maintien n'est pour l'instant toujours pas rempli dans cet OGC Nice. Et malheureusement, côté niçois, on a le sentiment depuis plusieurs semaines que c'est alors certes l'atout numéro un offensif, mais peut-être aussi le seul et unique atout. On l'a vu notamment, et Clément était bien présent à Strasbourg pour le constater en Coupe de France, c'est le danger numéro un, capable de piquer dans le dos de la défense. Alors l'ouverture de Klose était magnifique, mais voilà, un petit ballon par-dessus pour amener le danger, même face à Marseille, c'est lui qui va chercher à arracher l'égalisation en fin de match sur une Panenka pleine de culot et de cran après s'être fait bouger tout le match par les Argentins de l'OM. Donc voilà, il répond présent. On pouvait se poser la question quand il est arrivé en prêt de Francfort, voilà, quel Eli Wahi allait arriver à Nice, et pour le coup il est totalement impliqué, et ce soir il veut aussi contribuer au maintien de l'OGC Nice qui lui a tendu la main cet hiver.
Et je rajoute, Maxime, que c'est un joueur aussi qui a pas mal de vis devant le but et qui a cette petite vista pour voir un petit peu où est placé le gardien, et que Gauthier Larsonneur cette saison en Ligue 2 a fait énormément, Lionel pourra peut-être le confirmer, d'erreurs justement sur le placement, sur l'anticipation. On se souvient du but contre 3 où il s'en mêle les pinceaux, il est lobé du milieu de terrain, et ça il l'a fait beaucoup de fois. Donc je pense qu'Eli Wahi va aussi garder un œil sur le comportement de Gauthier Larsonneur, et dans un match qui peut être fermé, peut-être en profiter pour marquer un petit but de philo.
Ouais, complètement. Je te confirme, c'est vrai que Larsonneur parfois il joue un petit peu haut et il peut mettre sa défense en difficulté. Il peut aussi récupérer pas mal de ballons. Maintenant, pour ce qui est de Wahi, moi j'en fais la pièce maîtresse. Max, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pour moi, t'as l'attaque de l'OGC Nice avec et sans Wahi. Sans Wahi, c'est une attaque qui bouge pas beaucoup, où il y a pas trop de profondeur, où il y a pas ça manque de créativité, ça manque aussi d'une personne de son calibre qui est capable de faire la décision à lui tout seul. Moi je le voyais contre Auxerre par exemple, j'étais au match, je le voyais faire, je regardais ses déplacements, il est très malin, il est très intéressant, il se met toujours dans les bons coups, dans les bons espaces, et ça c'est très intéressant quand t'as des mecs qui sont capables de lui donner les ballons. Je pense notamment à Stéphane Klaus, même Sanson qui est capable de le servir comme il faut. Donc je pense que ses caractéristiques personnelles, il y a deux joueurs que j'ai adoré, et notamment un à Saint-Etienne Etienne, c'était Bernauer. J'ai trouvé très très bon, notamment à l'aller. Déjà aussi, il a fait pour moi quand même ces 3-4 derniers matchs. Il est vraiment sécurisant. Mais le match aller, je l'ai trouvé. Pour moi, c'était l'homme du match. Honnêtement,
très bon, ouais, c'est vrai.
Mais par contre, il va pouvoir et même le Cardinal vont pouvoir être, enfin, se faire du souci parce que Wai est très très intéressant.
Ouais, je rebondis sur ce que disait Lionel par rapport à Wai. Après, ça va être intéressant de voir. On sait que Claude Puel a longtemps joué aussi avec ses 5 défenseurs, avec un Jonathan Clauss en piston droit. Là, ça a été différent au match aller, avec 4 défenseurs de milieu de terrain
et surtout. Ça, ouais,
en tout cas, Jonathan Clauss était un cran plus haut en tant qu'il est droit. Et c'est vrai qu'il avait essayé de trouver les attaquants niçois et ça avait été malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. C'est vrai aussi que Bernauer et le Cardinal, tu l'as dit, avaient été très très bons sur le match aller. Voilà, la connexion entre Jonathan Clauss et Eli Wai va être très très importante ce soir si le OGC Nice veut gagner ce match-là.
On va suivre évidemment ce match de la peur dans quelques minutes. On va s'intéresser également à Saint-Étienne avec toi, Clément Brossard, parce que les Stéphanois visaient une remontée directe en Ligue 1 et pour l'instant, ça n'a pas été le cas. On rappelle qu'ils sont obligés de passer par ces barrages. Et il y avait eu notamment ce match face à Rodez avec cette séance de tirs au but qui était absolument dingue. Un petit tour du côté de la terre battue parisienne. Eric, salut, on en est où entre Fonseca et Djokovic?
C'est dingue parce qu'il y a 3 partout au 5e set entre Novak Djokovic et Joao Fonseca, le Brésilien qui a comblé son break de retard. Il a le soutien de beaucoup de fans sur le Châtrier. Il y a beaucoup de maillots jaunes dans les tribunes. Et puis je vais vous donner une nouvelle qui va peut-être mettre un petit couteau dans la plaie. Vous savez, Arthur Fils, quand il a
ça, tu t'en es pas remis de ce forfait.
Il a été remplacé par Jesper De Jong, un Néerlandais, le key loser.
Lui, il est
passé.
Le Néerlandais,
il mène 4-0 au 5e set contre Khachanov, c'est-à-dire qu'il va se qualifier probablement pour les 8e de finale. Voilà, c'est tout. On passe à autre chose.
Oh là 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 là. Mais t'as le petit quoi, mais écoute.
On a quoi, mais demain sur le linguet, oui.
Mais voilà, c'est des
petits. Et puis, autre info intéressante, Tommy Paul, l'Américain, mène 2-0 face à Casper Ruud, 6-4, 7-6.
Casper,
il y a des matchs monumentaux à Roland cette année-là.
Exceptionnel. On reste évidemment avec toi tout au long de la soirée et on suivra l'issue de ce 5e set. Vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. Le match de la peur entre Nice et Saint-Etienne, c'est évidemment à suivre sur RMC. Qui évoluera en Ligue 1 la saison prochaine? Nice qui se maintiendra ou les Stéphanois qui feront une remontée immédiate? La réponse, c'est ce soir. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. 20h29 en direct sur RMC du studio Roland Courbis. On est ensemble pour le match de la peur avec nos deux consultants ce soir, Maxime Chano et Lionel Charbonnier. Vous le savez, ce soir, il y a une équipe qui soit restera en Ligue 1, c'est Nice, soit remontera dans l'élite, c'est Saint-Etienne. On retourne tout de suite à l'Alliance Riviera. On retrouve Maxime Tilliette et Clément Brossard. On rappelle que le match ce soir se déroule à huis clos, pas de supporters, une ambiance très pesante. Et on va s'intéresser maintenant au Stéphanois avec toi, Clément Brossard, parce qu'on rappelle qu'il y avait un objectif, c'était la remontée directe. Ça n'a pas été réussi et il y a un vrai problème, notamment offensivement. Les Stéphanois sont armés et pourtant ils galèrent à marquer des buts.
Ouais, il y avait meilleur cette année en Ligue 2 pour monter directement.
Tu penses au Mans ?
Visiblement. Peut-être. Évidemment. En tout cas, aux deux équipes qui sont montées. Non, mais les Stéphanois étaient vus par rapport à leur effectif comme le Paris Saint-Germain de la Ligue 2, hein, parce que c'est évidemment un groupe qui est formé pour une remontée directe. Malheureusement, Saint-Etienne, on parle souvent des équipes qui font l'ascenseur, mais Saint-Etienne, c'est 3 fois sur les 5 dernières années en barrage. Le dernier leur a réussi, c'est vrai, mais il y a le souvenir aussi de l'échec 2022 face à Auxerre avec ce match nul, aller-retour, un partout. Lionel s'en souvient et cette défaite au tir au but.
Ouais.
Donc les Stéphanois en barrage, c'est pas forcément ça et on les attendait pas ici. Et évidemment que si ça tournait mal ce soir pour les Verts ici à Nice, il y aurait une énorme déception et pas mal de contestations dans les rangs stéphanois. Alors on a fait venir le board, on en parlait cet après-midi, Karine, de savoir si les propriétaires étaient là ou pas. Eh bien, Ivan Gazidis, le Canadien président de l'AS Saint-Etienne, a suivi l'échauffement de ses joueurs depuis le bord du terrain. Donc bien. Ils sont tous focus pour réussir cet objectif. Mais oui, il va falloir marquer. Et ça, c'est chose ô combien compliquée pour les Stéphanois, parce qu'on parlait de la triplette d'attaque qui sera alignée d'entrée aujourd'hui par Philippe Montagny avec Irvine Cardona, Lucas Tassin, Zurico Davitashvili, qui a été le meilleur joueur de Ligue 2 cette année. C'est sûr que sur le papier, ça a vraiment de l'allure. À eux trois, si je fais un rapide petit calcul, ils sont à 25 plus 7, 32 buts sur la saison. C'est pas mal, c'est sûr. Mais sauf que sur les derniers matchs de
Ligue
2...
Sur la dynamique, non.
c'était très compliqué. Ils ont eu énormément de mal à trouver le chemin du but. Ça a été le cas, peut-être, oui, ça s'est vu sur le grand public face à Nice lors du match aller mardi, où ils n'ont pas cadré une seule frappe, où dans la surface adverse, Stassin a été trouvé 3 fois, Cardona une seule fois, David Ashvili 0 fois, et le Géorgien a été le seul du trio à frapper au moins une fois dans la rencontre. Donc c'est assez désastreux et c'est aussi très inquiétant pour le coach Montagnier. Et puis quand on regarde un petit peu plus loin, hormis cette victoire 5-0 face à Amiens lors de la dernière journée de championnat où il fallait absolument s'imposer face à des Amiénois déjà qui avaient tout lâché et qui étaient déjà relégués en Ligue 3, et ben c'est un but en 5 matchs hors Amiens. Donc il y a une dynamique qui n'est vraiment pas bonne et il va falloir retrouver des automatismes et retrouver le chemin du but assez rapidement pour essayer de viser la Ligue.
C'est vrai que c'est le paradoxe de la Saint-Etienne finalement. C'est l'arrivée de Philippe Montagnier, c'est super bien passé. Il me semble qu'il y a une super série.
En février, tout
exactement,
à fait.
Exactement, où est-ce qu'il gagne pendant 6 ou 7 matchs et la Saint-Etienne remonte en haut du classement. Et derrière, il y a cette défaite contre le Sporting Club de Bastia qui était dernier ou avant-dernier de Ligue 2. Et en fait, on pensait vraiment pas que ça allait pouvoir arriver. Et depuis, vous l'avez bien dit, que ça soit collectivement parlant ou individuellement parlant, Saint-Etienne qui n'y est plus, à part cette victoire contre Amiens, contre une équipe d'Amiens qui avait complètement lâché. Même le match précédent en barrage contre Odense, c'est très très compliqué pour eux.
Ah oui, non mais c'est une certitude, ouais. C'est une grande difficulté. Ce sera l'interrogation de ce soir pour savoir s'ils vont réussir à se créer au moins, j'allais dire, plus d'opportunités que mardi. Ça va être très compliqué. Oui. Mais ce qu'ils ont fait sur les 5 dernières.
C'est la difficulté et c'est aussi la grosse différence que je retrouve. Moi, je me souviens tu en parlais tout à l'heure de ce match, de cette confrontation contre la JOCR où t'avais les Stéphanois 2022, qui descendaient, qui n'étaient pas vraiment pas bien, un petit peu à l'image de Nice actuellement. Et puis de l'autre côté, par contre, tu avais des Auxerrois qui, eux, tout réussissaient et ils étaient vraiment dans une dynamique incroyable. Et là, la grosse différence, c'est que pour Sévère, et c'est là où je rejoins Max et je te rejoins aussi, c'est que ils sont là en train de jouer un truc qui pourrait être fabuleux, qui pourrait leur changer la saison, mais en fin de compte, ils sont dans une dynamique descendante, tout simplement parce que ils ont été programmés pour monter, ils n'y sont pas arrivés. Derrière, y a eu ce petit couac à Bastia et puis
3 défaites de suite.
Ça s'est enchaîné. Et donc, ils se retrouvent maintenant à jouer avec presque la peur au ventre de mal faire. Enfin, la peur de mal faire. Parce qu'on a été programmé et surtout, faudrait pas qu'on se loupe pour ne pas louper cette montée. Et ça, c'est moi, je pense, attention ce soir parce que ça peut faire très mal.
On a vu des Verts effectivement tétanisés, c'était le cas face à Rodez, ils s'en sont sortis avec cette séance de tirs au but complètement dingue et l'entrée en jeu, on le rappelle, du gardien de but, ça avait été un choix gagnant de la place de la part de Montagnier avec effectivement ce choix de faire rentrer Maubleu. Et puis il y a eu ce triste 0-0, c'était mardi soir. Et
c'est ce qui pourrait, excuse-moi Karine, c'est ce qui pourrait quelque part dynamiser un petit peu les Niçois, c'est-à-dire qu'ils le savent. Il y a ce paradoxe des Stéphanois en plus qui était galvanisé, le chaudron, il a été magnifique, l'ambiance, elle a été magnifique et tout ça. Et ils n'ont pas été capables de tirer, de frapper. Enfin, je crois que c'est
zéro tir cadré pour les deux équipes.
Donc là-dessus, tu peux te dire, waouh, même chez eux, ils sont pas capables de rehausser le niveau. Et nous, à contrario, parce qu'il y a eu quand même entre les deux, Nice n'est pas dans une dynamique mirobolante, mais en tout cas, ce match qu'ils ont fait, la finale contre qu'ils ont eu à jouer en touchant les poteaux, en touchant contre la meilleure équipe française actuellement, en tout cas, on verra si demain. Moi, je pense que c'est la meilleure équipe française avec les Lillois de ces 5 derniers mois. Honnêtement, là, les Niçois peuvent se dire, on a un match référence. Si on prend ce dernier match, même à huis clos, et on se réfère à ce qu'on a pu faire en finale de Coupe de France avec Eli Wahi, en plus, moi, je pense que l'ascendant, pour moi, psychologique, pourrait être Niçois.
Eh bien, on va voir ce que ça donne au niveau des paris. On va parier sur le match de la peur entre Nice et Saint-Etienne.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Bonsoir Yann Guillet.
Bonsoir messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous.
Bon là, je suis perdu. Salut. Est-ce qu'il y a un favori dans ce match? Parce que ça nous semble tellement indécis. On a l'impression que tout le monde est tétanisé. Donc est-ce que c'est l'équipe de Ligue 1 quand même qui est avantagée?
Oui, quand même. Nice est à 1,94. C'est déjà une belle cote à domicile. Mais bon, match à huis clos. Le nul est à 3,20. Saint-Etienne est à 4,20. Au niveau de la qualification, on en est à 1,48 pour Nice, 2,65 pour Saint-Etienne. Écoutez, je ne sais pas. quoi penser de ce match, pour être tout à fait honnête. Je vais vous proposer un my match avec le nul à la mi-temps et plus de 0,5 buts dans le match. Je vois pas un autre 0-0
non plus. Tu te mouilles pas, dis donc.
C'est coté à 2,40. La cote, elle est loin d'être moche, je trouve.
Oui, mais alors la description de ton match, elle a l'air très moche, par contre, tu vois.
Elle correspond au match aller.
Quand on voit le match aller, en effet, ouais, on serait.
Messieurs, mouillez-vous. Lionel et Maxime, quels sont vos paris?
Faut que j'aille contre toi. Allez, je vais aller sur Nice mène à la mi-temps.
Ok.
Et va écraser Saint-Etienne 1-0.
Ok, d'accord.
Donc le 1-0 mi-temps et le 1-0 fin de match.
Je t'ai mis à 1-0 mi-temps et fin de match ou juste Nice qui mène à la mi-temps.
Okay, non, le 1-0 parce
mi-temps,
que je pense que
1-0
c'est
pour Nice. C'est coté à 3,55. Fin du match 1-0, c'est coté à 10,50.
Voilà. Si tu veux, je te mets même le buteur pour un deuxième ticket,
okay,
avec
Wai. Je t'en prie. Et bah, si je t'ajoute un buteur, en l'occurrence Eli Wai, on monte à bien joué, on est à 29.
Voilà.
Écoutez, moi je vais aller contre vous, messieurs. Je vois bien Saint-Etienne gagner, même si tu l'as bien dit, le match allait été catastrophique. J'ai envie d'y croire pour les Stéphanois. Et je vois bien Saint-Etienne gagner avec évidemment peu de buts, hein, à l'image de ce premier match où il y a eu zéro tir cadré. Donc Saint-Etienne qui gagne 1-0 avec un but à l'étire d'un défenseur, le Cardinal, tient sur corner.
Alors déjà, le 1-0 pour les Verts, c'est coté à 8. Et si en plus de ça, je te mets un but de le Cardinal,
27.
80.
Non, mais combien ?
1-0 pour Saint-Té avec but de le Cardinal, eh ben, c'est 80.
Ouais,
c'est
parti en
l'air. Pas 4,20, vraiment 80.
Non, mais on sait que ce genre de match, en règle générale, ça joue vraiment sur des coups de pied arrêtés, parfois sur des détails. Donc pourquoi pas un défenseur central Stéphano marqué, le Cardinal.
Ok, merci messieurs.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Maxime. On te retrouve dans l'After Foot ce soir. On parlera évidemment et on débriefera ce match entre Nice et Saint-Etienne. Et puis on reviendra sur ce J-1 entre le PSG et Arsenal. Retour sur la terre battue de Roland-Garros. Mon cher Eric Salio, Djoko a repris les devants.
Non, il y a 4 jeux partout dans la 5e manche, mais c'est vraiment un final époustouflant parce que les deux joueurs sont vraiment au bout de leurs limites, surtout Novak Djokovic. C'est normal, il y a 20 ans d'écart entre le Serbe et le jeune Brésilien. Et c'est vrai que j'observe du coin de l'œil Novak Djokovic. Je l'ai vu parfois tituber, il a même vomi tout à l'heure dans la poubelle près de la chaise d'arbitre. Mais il s'accroche. C'est pour ça que c'est un champion immense, un immense champion, parce qu'il va aller au bout. Alors je ne sais pas s'il va gagner, mais en tout cas il mène 45 sur sa mise en jeu, donc il est en capacité d'aller s'asseoir à 5 jeux à 4 et de mettre une immense pression sur son jeune adversaire. Mais c'est un match absolument splendide qui pour tout le monde, les spectateurs là, c'est le must de ce début de quinzaine. Il y a eu le match de Kwame, mais là en termes de qualité de jeu, on est vraiment à un niveau largement au-dessus. Donc 4 jeux partout, attention, peut-être 5-4. Oh là 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 là, un passing de João Fonseca à au moins 170 km/h. Il a fusillé entre guillemets Novak Djokovic, donc 40-30. Ce jeu n'est pas encore gagné pour Novak.
On reste avec toi Eric, c'est vrai que c'est quand même très dur parce que Djokovic, on a l'impression que tout le public est contre lui. On a l'impression que Fonseca est français, tellement l'ambiance à chaque point gagné par Fonseca est dingue, non ?
Ah, il a des fans quand même, il a des fans Novak Djokovic, il a des Serbes.
À la télé, on les entend pas beaucoup.
Eric, t'as pas l'impression que Djoko, il est en train de jouer sa demi-finale là ? C'est-à-dire que même s'il passe ce match-là, le match d'après, il n'y aura plus rien dans les chaussettes.
Mais le problème, c'est que effectivement, on est à 4h38 à la pendule, Lionel.
Et ça pèse. Il va pas pouvoir l'accumuler.
3h44 contre Valentin Royer. Et quand on regarde ce qui l'attend derrière, c'est le vainqueur de Rude, Paul, et peut-être Zverev en demi. C'est un tableau terrible. Quand tu vois le chaos dans le haut de tableau, il aurait fallu être dans le haut. C'est un échange monstrueux, là. Et Novak, oh, il nous place un revers long de ligne. Extraordinaire, oh là Novak là Djokovic. Là là. 5-4 pour le Serbe.
Il va prendre son temps.
Et grosse pression sur Fonseca.
Magnifique, on revient dans quelques instants pour le coup d'envoi du match entre Nice et Saint-Etienne et l'épilogue de ce match de dingue entre Fonseca et Novak Djokovic. Ça se passe sur RMC, à tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. 20h42 dans quelques instants, le match de la peur, l'épilogue de cette saison de Ligue 1. On saura qui reste en Ligue 1 ou qui monte en Ligue 1. Ça se joue entre Nice et Saint-Etienne. Mais tout de suite, retour à Roland-Garros. On est avec Eric Salio. Ce match est fou entre le jeune Fonseca et l'expérimenté Novak Djokovic. Et donc là, c'est Fonseca qui est au service.
Oh, l'ambiance est fabuleuse parce qu'il y a la moitié du stade qui se lève pour saluer.
Peut-être ce dernier jeu,
parce que si Fonseca se trouve, c'est jeu, c'était match pour Novak Djokovic, mais il a montré tellement de ressources, Joao Fonseca, depuis 2 heures, parce qu'il était vraiment à la rue, hein. Il était mené 2-7-0, on voyait pas comment il pourrait s'en sortir. Attention, 0-15, un coup droit qui sort. Ça faisait longtemps qu'il n'est pas sorti un coup droit de Joao Fonseca. 0-15, Novak Djokovic, il va tout faire pour le faire craquer. Il a une expérience folle. Songez que c'est son 59e match en 5-7. C'est incroyable. Il va battre le record de Stan Wawrinka. Et Joao Fonseca, c'est son 2e seulement. Le premier, c'était il y a 2 jours. Kaza, parce qu'il a lâché une mine en coup droit. Fonseca, il a retrouvé de la confiance. Le retour était moyen, c'est vrai. Mais il fallait pas trembler. Je rappelle le score, hein. 5-4 au 5e pour Novak Djokovic. Kaza sur la mise en jeu de Joao Fonseca, le jeune Brésilien à qui... Ouais, on sait que ce sera un futur grand, mais c'est vrai que depuis quelque temps, on commençait à douter de ses capacités. Il est que 30e mondial, un ace, 35. Vous savez que s'il y a 6 partout, il y a un super tie-break. Là, il faut faire l'intégrale, hein. Ça peut être extraordinaire. Joao Fonseca, depuis le mois de mars, il a quand même joué Alcaraz, Sinner et Zverev. T'apprends de ces matchs, t'apprends de ces défaites.
Bah ouais.
Et là, il est en train de montrer qu'il est au niveau. Est-ce qu'il va pouvoir déboulonner Novak Djokovic? C'est la grande question parce que il manque d'expérience, mais croyez-moi, il a du culot. 35, donc Fonseca dans cette 5e manche avec une première sur le revers de Amorti. Amorti va y aller, Djokovic va y aller. Il sait que c'est important. Il va se faire prendre le lob. Oh, yeah, oui. Et le lob est gagnant parce que Novak n'a plus les jambes pour sauter. Et donc, il l'a pris avec la tranche de raquette. 45. 2 balles de 5 partout. Ce match est inouï. Inouï. Mais on vit des émotions de folie à Roland après le Kwame Varias d'hier. D'ailleurs, Varias, il a eu des déclarations assez pas terribles. Il a dit à un journaliste argentin que le match d'hier aurait dû être arbitré par une femme. La Fédé a réagi. Il va prendre une grosse amende. Ça n'a pas plu du tout. Allez.
Mais c'est la moindre des choses.
Mais bien sûr, non, mais c'est une grosse erreur. Jeu 5 partout, Karine.
Oh là là, mais quelle folie.
4h43.
Eric, évidemment, on revient avec toi dans quelques instants, mais c'est parti à l'Alliance Riviera. Maxime Tilliette et Clément Brossard, le match pour savoir qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine.
Ouais, c'est parti à l'instant. Coup d'envoi donné par les Verts qui mettent tout de suite la pression dans le camp des Niçois. Ils vont mettre le ballon en touche à venir pour Melvin Barr. Les Niçois installés en Ligue 1 depuis 2002 qui ne veulent pas quitter l'élite. Et en face, les Stéphanois qui veulent retrouver la première division après une année passée dans l'antichambre. 0-0 après une minute. Et on sent dans les visages que c'est très fermé et l'enjeu. Alors certes, les tribunes sont vides, mais les visages sont marqués par l'enjeu dès l'entame de ce match.
Le décorum n'est pas énorme, hein. Évidemment, on a entendu Nissa Labella, l'hymne azuréen, mais personne, pas de bruit. Ça nous rappelle les sombres années Covid, évidemment, dans ce stade absolument vide où pour l'instant on s'observe. On a essayé un long ballon avec Maxime Bernauer qui a tenté une relance vers Irvin Cardona et ça part une nouvelle fois en touche avec Melvin Barr. Une minute de jeu ici à l'Alliance, 0-0 entre Nice et Saint-Etienne.
On retourne à Roland Garros, c'est complètement fou. Un point magnifique de Fonseca à l'instant.
Fonseca qui fait des suiglaces, qui se bat.
Attention à Boakai quand même, l'opportunité pour les Stéphanois avec Stassin à l'entrée de la surface de réparation. Il a perdu le ballon et les Niçois qui vont pouvoir partir en contre-attaque.
Oui, Mohamed Alichaud qui a le ballon dans les pieds. C'est lui qui avait glissé au départ et offert cette situation au vert, mais c'est lui qui porte le ballon dans l'autre sens désormais. On nous aborde la surface avec Tom Loucher qui a trop tergiversé et qui va perdre la possession du ballon. 0-0, 1 minute 30 entre Nice et Saint-Etienne.
On reste avec vous, hein, messieurs, on rappelle, c'est le match pour savoir qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Les Niçois ont vécu une saison galère. Est-ce que M. Radcliffe est présent ou pas finalement?
Non, c'était pas la tendance aux dernières nouvelles. Il n'est visiblement pas là. On a vu Jean-Pierre Hébert, on a vu Maurice Cohen et les présidents.
Mais donc un propriétaire désintéressé.
Ah ouais, ça c'est le cas depuis de nombreux mois, nombreuses années également. Il était présent pour la finale en 2022 de la Coupe de France, mais celle face à Lens l'intéressait un petit peu moins, visiblement.
C'est sidérant. Non, mais t'imagines que vendredi dernier, déjà, il n'était même pas présent au Stade de France.
Non, je ne peux même pas imaginer, non.
C'est l'avenir de son club, tu l'as dit quand même. 2001-2002, retour dans l'élite, donc c'est dire si Nice est présent en Ligue 1 depuis longtemps. Et là, c'est quand même un séisme si Nice descendait en Ligue 2 et le propriétaire n'est pas là.
Ouais, tout en ayant joué, souvenez-vous, au début de cette saison, les barrages pour disputer la Ligue des Champions. Il s'est passé énormément de choses cette saison du côté de l'OGC Nice. Et en l'espace de quelques mois, ils sont passés d'un barrage à l'autre. Celui pour la Ligue des Champions à celui pour la Ligue 2. Même si là, ce sont eux, les Niçois, qui ont le ballon côté gauche avec Melvin Barre. On a essayé de jouer en triangle, notamment avec Tom Mouchet. L'ouverture dans la profondeur de Morgan Sanson, directement captée par Gauthier Larssoner. 0-0 Nice-Saint-Etienne.
Il y a un truc qu'on avait oublié, Karine, Maxime, Lionel, c'est que pendant l'étape Covid avec des stades vides, on entend beaucoup les entraîneurs donner les consignes et ça c'est plutôt intéressant.
Effectivement, Maxime nous a quitté hein. Par contre Clément, tu le retrouveras dans l'After Foot. On retourne à Roland-Garros.
Je peux pas m'en passer, c'est pas
avec Eric Salio. Eric,
faut pas qu'il y ait de bulle à passer à 0-40 balle de break pour Joao Fonseca. Alors là les,
il a le masque,
les footballeurs, pas de but hein. Comme à Joao Guichard, vous bougez pas une oreille,
pas,
5 partout, 0-40. Fonseca vient de faire deux coups magnifiques, une contre-amortie et là une amortie bien sentie. Joko, il a plus les jambes, il peut plus y aller,
il peut plus.
Et là, et là, il est en grand danger. 5 partout, 0-40. Novak Djokovic qui prend tout son temps, qui va aller au bout des 25 secondes. Le service, il est bien, bien, mais il n'est pas encore gagnant. Ce match de Djokovic, attention au passing de Fonseca. Oh, c'est superbe. Le passing était rentré, mais Djokovic, qui avait tout compris, a mis une demi-volée de revers assez longue qui a empêché Fonseca de prendre la balle. Donc, 15-40. Première alerte pour Djokovic, elle est sauvée.
On,
mais c'était une alerte rouge, mais il y en a encore deux hein. Il y en a encore deux, là il va chercher la serviette et puis peut en profiter pour écouter les conseils de ses coachs, parce que là il est juste tout près d'eux, notamment Victor Troïski, un joueur qu'on connaît malheureusement, qui nous avait fait très mal en Coupe Davis en 2010. C'est lui qui avait apporté le dernier point, le point de la victoire, le match 5. 5 partout, 15-40, Djokovic au service. Fonseca, je suis sûr qu'il va prendre sa chance, mais évidemment il attend peut-être que Djokovic connaisse des ratés au service. Et oui, il prend la première, Djokovic, c'est bien. Volée amortie à contre-pied, et oui, bien joué. C'est toute l'expérience de Novak Djokovic. Il n'a pas cherché l'ace. Une première, deuxième à 168. Retour très moyen de Fonseca et Djokovic, tranquillement, qui dépose une volée à contre-pied long de ligne. Chapeau. Chapeau champion, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Maîtrise tactique parfaite. 30-40, encore une. Et là, vous entendez l'ambiance, les Nolé. Il y a des supporters, tu vois, Karine, de Nolé. Hein.
Ah, ben je suis ravi pour lui, parce que j'ai l'impression que c'est toujours le mal aimé, ce pauvre Novak.
Non, parce qu'on se rend compte aussi que s'il perd ce match, peut-être qu'on le reverra plus.
Et ça serait terrible. Triple vainqueur à Roland, c'est ça ?
Eh oui.
Et
puis, Karine, s'il perd ce match, on a l'assurance d'avoir un vainqueur inédit.
Ah oui, ça serait effectivement une première, on rappelle.
Elle est belle, elle est belle. Où le retour est parfait. Fonseca avec son coureur qui va lâcher une mine. Ça revient. Deuxième mine amortie. Il peut pas y aller, Djoko, break. Oh là là, il va servir pour le match, Fonseca.
Oh là là,
incroyable.
Là
là. Incroyable. Quelle lucidité chez le Brésilien. Il lâche une première mine. On attend la deuxième. Non. Il bloque le bras. Amorti. 6-5.
C'est intelligent, hein, Eric.
Extraordinaire. Hein,
parce qu'il il le fait courir d'avant en arrière du filet en fond de ligne. Et puis après, il le balade aussi de droite à gauche. C'est ce qu'il faut faire.
Il n'a que 19 ans, Lionel. Plus. Tu te rends compte?
Je suis en stress total. On revient avec toi dans quelques secondes, Eric. Mais on va faire un petit tour, évidemment, à Nice, où il y a eu une occasion pour les Stéphanois, Maxime et Clément.
Oui. Alors qu'au départ, c'était les Niçois qui étaient proches du but de Gauthier Larssoner sur un corner de Jonathan Klaus. Le danger a été écarté par la défense stéphanoise. Et derrière, magnifique ouverture vers Davitashvili qui renverse le jeu à l'entrée de la surface vers Irvine Cardona. Et le numéro 7 stéphanois qui a préféré mettre le ballon dans l'axe vers Lucas Tassin au lieu de tenter sa chance. En tout cas, derrière, il y a eu une faute obtenue, enfin concédée par Antoine Mendy. Un bon coup franc à venir pour les Verts.
Il en a perdu sa chaussure, Irvine Cardona. Ce sera un coup franc sur le côté droit, excentré pour Zurico. Davitashvili, le géorgien, qui quand il met les cannes vraiment fait les différences. On a vu notamment sur l'opportunité précédente sur le côté gauche. Là on a inversé, évidemment on le rappelle, meilleur joueur de Ligue 2 au trophée UNFP. Les deux mains levées pour le géorgien Davitashvili. Monsieur Buquet qui met un peu d'ordre dans la surface de réparation. C'est parti, premier poteau, la tête de Cardona, c'est passé devant tout le monde, personne pour couper la trajectoire, heureusement pour Yvan Diouf. Bah là, voilà la première opportunité chaude, elle est pour l'AS Saint-Etienne. 7 minutes de jeu, 0-0, mais la défense niçoise a eu chaud.
Que c'était bien joué. Retour à Roland-Garros. On rappelle que potentiellement Fonseca va éliminer Novak Djokovic. Si le prochain jeu est gagné par le Brésilien, eh bien ça sera mieux, ça, match pour Fonseca. Est-ce qu'il a comme idole Guga ou pas, Fonseca?
C'est pas vraiment la même génération et c'est pas les mêmes origines populaires. Bon, Guga était un enfant du peuple. Fonseca, c'est une famille assez aisée. 15-0. Il n'est plus qu'à 3 points de l'exploit, Joao Fonseca. Mais effectivement, ils ont des liens, parce que mais ça date quand même, hein, ça commence à dater. Guga Cheda, d'ailleurs, on le voit
pas
souvent.
Pas du tout. 97, son premier sac, c'était hier.
Oui, c'était hier. Voilà. Allez, 15-0, mais je suis sûr qu'on le reverra à Roland. Il vient souvent.
Ah, mais oui, il vient chaque année.
D'une marque au Crocodile, donc.
Tout à fait. Il vient chaque année, Quartel. Magnifique.
Et il est accueilli comme un roi.
Kaza.
Eh oui, c'est un mec adorable, charmant. 6-5 Fonseca pour ceux qui prennent le match en route. Et on va peut-être atteindre les 5 heures de journée, 4h51. C'est hallucinant. Et Fonseca, donc, il prend son temps. La 15A, il est à 3 points du bonheur, à 3 points d'un exploit monumental, à 3 points d'une deuxième remontada en 2 jours. Puisqu'il y a 2 jours, il avait battu Prismic après avoir été mené 2-7-0. Ouh là là, il a tenté l'ace là. Il a manqué quelques centimètres. C'est passé juste à côté, dans le mauvais carré. Je guette Djokovic parce qu'il va pas.
Le but stéphanois, Irvine Cardona. Je reviens très vite vers toi, Eric. Mais là, c'est parti sur le côté droit. Se lève. Ah, il y a peut-être une position de hors-jeu qui va sauver les Niçois.
Oui, limite. Il doit être limite hors-jeu.
Ça venait de la droite, en tout cas, avec ce centre de Denis Sapia. Irvine Cardona menaçant dans la surface de réparation qui reprend une touche et qui trompe Yevan Diouf. On va attendre un petit peu et Rudy Buquet qui va donner la position de hors-jeu. Pas de but, fausse alerte, 9 minutes 0-0 entre Nice et Saint-Etienne.
On va attendre de voir.
35 à Roland, donc 2 points du match
pour Fonseca. On est avec toi, Eric Salio.
Avec un courant filé. Oh là là. Alors que Djoko semblait totalement tétanisé, les pieds dans le ciment. Il bougeait pas après son retour. Et Fonseca, peut-être troublé par l'attitude de Djokovic, il a expédié son coup droit dans le filet. 30 à. Il peut coûter très cher celui-là parce que franchement, le court était totalement désert. J'ai l'impression que Novak, il est au bout de sa vie. Il est totalement au bout de sa vie. Mais bon, avec l'expérience, on ne sait jamais, il peut y avoir un miracle. 6-5, 30 à Fonseca au service. Peut-être la balle de match dans quelques secondes à venir. Bonne première. Le retour est dedans. Fonseca qui part à la faute, 30-40. Oh là là, faute en longueur du Brésilien. Mais ouais, il est crispé, il est tendu, il se tend, c'est normal. Et là, il vient de commettre deux bêtises qui coûtent très très cher. Donc balle de débreak.
Rapidement les garçons, but annulé.
But annulé en effet, puisque Stassin a touché le ballon sur la frappe de Cardona, a dévié le ballon au fond des filets niçois, mais il était bien en position de hors-jeu. 0-0, 10e minute entre Nice et Saint-Etienne.
Retour à Roland, balle de break, Eric.
6-5 donc pour Fonseca, mais 30-40 sur la mise en jeu du Sud-Américain. Là, il vient de commettre deux bêtises. Et l'ace qui tombe. Oh, énorme. À 220, ça fait 40 ans. Alors ça, c'est la marque des grands, hein. Croyez-moi. Quand t'es capable de balancer un ace à 220 alors que t'es à 30-40, crois-moi, c'est que t'es plutôt... T'es un grand, t'es un futur grand.
40 à
2 points. Il revient à 2 points du match, le Brésilien. Est-ce qu'il va parvenir à se créer sa première balle de match? Ace! C'est pas vrai. Nouvelle ace sur le T, comme on dit. 215. Et là, Djokovic n'y croit plus. Il regarde son clan et il dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le mec, il me balance des aces, des coups droits gagnants, il n'en peut plus. Il est au bord du chaos. Événement peut-être historique dans quelques secondes. Djokovic, qui pouvait chercher le 25e, surtout après l'élimination de Sinner. Djokovic, au lendemain de l'élimination de Sinner, il va peut-être sauter à son tour. Attention. Ace! C'est pas vrai! 3 aces d'affilée! Fonseca sort, Djokovic en 5-7, c'est énorme. Énorme victoire de Fonseca. On aura un nouveau vainqueur le 7 juin. C'est l'info numéro 1. Mais on a un champion qui vient de naître sous nos yeux. Jérôme Fonseca qui sort Novak Djokovic en 5 manches. 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Énorme match, énorme émotion. Djokovic est tombé sur plus fort que lui et surtout plus jeune.
Incroyable. Il a les larmes aux yeux, hein, Fonseca. Et Djoko, extrêmement classe, hein, qui lui a fait une belle accolade. Espoir. C'est incroyable.
Quelle émotion,
ce que
quel match.
Le public parisien vit actuellement, Eric.
Les petits jeunes sont sortis, Eric.
Pardon ?
Les petits jeunes sont sortis.
Ah, les petits jeunes, ils prennent le pouvoir, là, hein, c'est clair. Hein.
Et Eric, c'est très dur parce qu'évidemment, il y a le bonheur, le sourire et bravo à Fonseca, mais c'était peut-être aussi la dernière fois qu'on voyait Djoko sur la terre battue parisienne.
On va guetter sa sortie de cours. Tu sais, l'an dernier, c'était dirigé vers le milieu du cours, il avait salué le public et on était dans l'interrogation. Et là, il est en train de ranger ses petites affaires. Alors que Fonseca a célébré sa victoire au milieu du cours, il range son sac, sa serviette. C'est une immense déception pour lui. Hein. Il le voulait ce 25e. Mais c'est vrai qu'après l'élimination de Sinner, voilà, il quitte le cours. Marc Maury, il se dirige vers le milieu du cours une fois de plus. Il salue, la main sur le cœur. C'est une image très forte. Novak Djokovic, on le reverra peut-être plus à Roland. Il a 39 ans, je le rappelle. Il veut jouer les Jeux Olympiques à Los Angeles. Mais c'est loin. C'est loin. Et là, il est tombé sur plus fort. Il y avait Sinner, il y avait Alcaraz, maintenant il y a Fonseca, ça commence à faire beaucoup.
Mais qui devient favori, Zverev?
Non, j'en sais rien, c'est ouvert, le tournoi, c'est open bar, Clara.
Moi, c'est Karine, c'est mais tu m'appelles Clara, pardon. Bien sûr.
Clara, c'est ma fille, pardon.
Écoute, c'est, ça me va très bien. Va bien. Je suis très amie avec Clara Courbis, donc il n'y a aucun problème. Je prends aussi.
Mais c'est vrai, mets-toi à la place de Zverev. Zverev doit se dire, il est pour moi. Mais va gérer oui. cette pression, Karine.
On se souvient de sa terrible blessure à la cheville, en bien plus, sûr. Pour Zverev. Donc, ça serait beau. Et il n'est pas très expressif, par contre, Fonseca. Hein.
Moi, je pense qu'il est cramé aussi.
Il y a ça, et puis il y a l'humilité. Tu viens de. Tu
oui,
viens
non, de... C'est un match mutant. Il ouais. était mené 2-7-0. Il était largement dominé. Et il a trouvé les ressources. Comme il y a deux jours, sur le 14, face à Prismic et sa famille qui célèbre. Je l'avais dit, c'est une famille de nantis, entre guillemets. Il a tout de suite été couvé par Roger Federer, puisqu'il porte la marque de Roger Federer. Mais on savait que ce serait un tout grand. Mais là, ça y est, c'est la naissance d'une star, c'est évident. Même si il avait signé quelques belles victoires. Mais on commençait à se dire, on l'a peut-être un peu trop vu trop. Ben là, on a une réponse extraordinaire. Parce que gagner, c'est seulement la deuxième fois que Novak Djokovic perd un match en menant 2-7-0. Et la première fois, c'était déjà à Roland-Garros. C'était en 2010. Vous vous rendez compte de la performance de Fonseca? C'est juste hallucinant.
Ouais, puis c'est presque aussi le petit jeune, tu vois, qui se dit, mais je viens d'éliminer un monument.
Là, oui, il faut réaliser, bien
mais,
sûr.
Mais ouais, on vient. Alors déjà, faut.
Tu vas pas célébrer comme un fou. Tu respectes ton adversaire.
Et puis il y a un respect. Il l'applaudit pendant, enfin, chaleureusement, Djoko, lorsqu'il quittait le terrain.
Tremblement de terre donc à Roland-Garros. Djokovic est éliminé en 5-7 et c'est Fonseca qui continue sa route. Dans quelques minutes, il y aura Alice face à Zverev. On suivra ça avec toi, évidemment. Eric Sagnot, retour à Nice. Le temps, le score, Clément Brossard et Maxime Tilliette.
Le quart d'heure de jeu 0-0 entre Nice et Saint-Etienne. Les Verts ont cru ouvrir le score, mais le but a été fort logiquement refusé puisque Stassin a dévié le ballon en position de hors-jeu. Ce sont plutôt les Verts qui font la meilleure entame de match, 0-0.
Ça se passe sur RMC, vous le savez, les émotions, c'est à vivre chez nous. Il y a le foot avec ce barrage pour savoir qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Et puis on suit évidemment Roland-Garros, le troisième tour avec, on vous l'a dit, donc Novak Djokovic qui peut-être a joué son dernier match sur la terre battue parisienne. Il a été sorti en 5-7 par le jeune Fonseca. Dans quelques minutes, c'est Alice, le Français, qui défiera Zverev. A tout de suite, on est ensemble jusqu'à minuit.
RMC, l'Afterlife.